30.
Le 6-9 LFM.
Parlons conso avec Bon à Savoir.
Et avec son rédacteur en chef, Pierre-Yves Muller, bonjour.
Bonjour.
Chose promise, chose due, il y a deux semaines, vous évoquiez cette thématique qui nous concerne absolument tous, sans exception, notre dépendance aux géants du numérique. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet.
Dans le dernier numéro du magazine, vous publiez un guide pour se libérer de l'emprise des grandes plateformes numériques du genre, Google, Apple, Meta, Microsoft. Alors, c'est plutôt difficile de faire sans ces applications, et pourtant, vous nous le dites, dans Bon Savoir, il est temps de reprendre le contrôle.
Oui, parce que cette dépendance, elle ne s'est pas installée du jour au lendemain. En 20 ans, ces outils sont devenus indispensables. On les utilise pour communiquer, travailler, s'informer, se déplacer. Bref, ils sont partout. Et le problème, c'est qu'on est passé sans vraiment s'en rendre compte d'utilisateur naïf à utilisateur captif.
Captif, carrément. Mot fort, non ?
Oui, il est fort, mais il est juste. Aujourd'hui, nos logiciels ne nous appartiennent plus. On ne possède plus rien. On n'achète plus Microsoft Office, par exemple. On le loue. On ne possède plus de musique, plus de films. On loue tout. Et pourtant, on paye. Et on paye souvent cher. Les plateformes se sont remplies de publicité, au point qu'on paye même parfois pour ne plus en voir. Et dans le même temps, les prix augmentent. Donc, on paye plus. Pourquoi ? Pour garder l'accès à des outils devenus essentiels.
Au-delà du prix, il y a aussi la question de nos données.
Absolument. Ces services ne sont pas gratuits par hasard. Vous connaissez l'adage. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. On paye ces services en fournissant nos données qui sont massivement utilisées. Les algorithmes analysent nos comportements, lisent nos emails pour les personnaliser. Les algorithmes influencent ce que l'on voit, ce que l'on achète, parfois même ce que l'on pense. À l'ère de l'intelligence artificielle, ces données servent aussi à entraîner des systèmes toujours plus puissants.
Donc ce n'est pas seulement une question économique.
Non, vraiment pas. C'est aussi et surtout même une question de société. Selon le journaliste et auteur Bruno Giussani, qui vient de sortir un livre sur la question dont on s'est aussi inspiré pour notre article qui s'appelle « Manuel de résistance à l'emprise technologique ». Je vous le recommande d'ailleurs chaudement, hein, hyper intéressant ce livre. Et bien donc, selon Bruno Giussani, cette dépendance crée une forme de soumission sociopolitique parce que ces plateformes, elles influencent nos relations sociales, nos choix culturels, notre vision du monde. Et puis elles finissent par brouiller notre perception de la réalité, notamment avec la multiplication des fausses informations.
Ça fait un petit peu dystopie quand même.
Oui, mais malheureusement, c'est très concret. Quand l'accès à l'information est filtré par des algorithmes, quand les contenus sont hiérarchisés ou censurés sans transparence, on perd peu à peu notre capacité à se forger une opinion libre. Et ça, c'est un enjeu démocratique de première importance.
Bon, alors on fait quoi, Pierre-Yves ? On jette son téléphone ?
Non, heureusement. L'idée, ce n'est pas de tout quitter du jour au lendemain, ni de jeter son téléphone, mais d'avancer étape par étape. Et surtout, il existe des solutions, des alternatives. Et elles sont souvent très efficaces, et puis souvent aussi gratuites. Bon, à savoir à recenser toute une série d'applications et de logiciels, en particulier en Suisse et en Europe.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, on peut commencer simplement, par exemple, remplacer Google comme moteur de recherche par Quant ou Startpage ou DuckDuckGo, qui sont tout aussi efficaces mais ne tracent pas les utilisateurs. Pour le navigateur, on peut passer à Firefox ou Vivaldi. Ce sont des navigateurs qui offrent plus de confidentialité que Chrome, mais qui ne sont pas moins fiables, bien au contraire.
Et pour les autres outils qu'on utilise tous les jours, des exemples ?
Oui, là aussi, il y a des solutions. Pour transférer des fichiers, par exemple, SwissTransfer, qui est développé en Suisse, propose des envois jusqu'à 50 gigas contre 2 gigas pour WeTransfer, qu'on utilise depuis bien longtemps. Alors, pour la visioconférence, K-Meet, c'est une bonne alternative. Elle est open source, c'est-à-dire transparente, encore une fois, et elle est hébergée en Suisse. C'est mieux que Zoom, pour être clair.
Et les gros morceaux, comme les emails ou WhatsApp ?
C'est un peu plus technique, mais tout à fait faisable. Pour les emails Proton, Mail ou Infomaniac, Suisse aussi, qui offre des services sécurisés avec des données stockées dans notre pays. Pour la messagerie instantanée, Signal ou Trema, ça permet de communiquer sans exploitation commerciale des données. C'est comme WhatsApp, mais voilà, c'est des logiciels transparents.
Et pour ce qui est des réseaux sociaux, là, c'est peut-être le plus difficile.
Oui, c'est clairement plus délicat parce que la valeur d'un réseau, ce sont ses utilisateurs, mais là aussi des alternatives ont émergé et certaines se développent rapidement, comme Blue Sky qui a remplacé X, anciennement Twitter. Puis il y a aussi Mastodon. L'idée, ce n'est pas forcément de quitter du jour au lendemain Instagram ou TikTok, mais de commencer à tester autre chose et d'y emmener progressivement ses contacts. Il y a quand même quelques applications. Moi, j'ai testé la semaine dernière Pixel Fed qui ressemble beaucoup à Instagram, par exemple, et puis qui est une application aussi transparente.
Donc, qu'on peut reprendre le contrôle, mais ça demande un effort.
Oui, un effort, mais raisonnable. Il existe même différents niveaux d'engagement. On peut commencer par des changements simples, comme le moteur de recherche ou le navigateur, puis aller plus loin avec le cloud, les emails ou la messagerie. Alors, chacun avance à son rythme. On a d'ailleurs classé ces alternatives dans « bon à savoir » par degré de difficulté. Certains changements sont vraiment très simples.
Et au fond, alors qu'est-ce qu'on gagne à faire tout ça ?
On gagne en confidentialité d'abord, on limite le siphonnage de nos données ensuite, et puis on gagne aussi en indépendance en soutenant des solutions européennes ou suisses, et puis surtout, on reprend un peu de contrôle sur notre environnement numérique et on maîtrise un peu mieux ce que l'on fait et ce que l'on voit.
C'est presque un acte citoyen finalement.
C'est absolument un acte citoyen. Chaque petit pas compte. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais de réduire progressivement l'emprise de ces systèmes. Parce qu'aujourd'hui, le vrai luxe numérique, ce n'est plus la performance, c'est la maîtrise des outils.
Et ça, visiblement, ça n'a pas de prix.
Non, mais ça demande un peu de volonté et puis surtout de la lucidité. Ce que nous montrent aujourd'hui les grands patrons, en particulier américains de la tech, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait frémir. C'est une technocratie qui grandit sous nos yeux grâce aux données que nous fournissons. Il n'y a aucune raison de continuer à alimenter ce système qui se montre chaque jour plus autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, et dont les ambitions sont franchement plus que discutables.
Promis alors, on va s'y mettre. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans ce numéro de Bon à savoir ?
Bien, on a un test sur les lasagnes industrielles, fraîches et surgelées. Puis étonnamment, ce sont les congelés qui s'en sortent le mieux. Et puis une enquête sur les abonnements aux plateformes de jeux vidéo qui coûtent un bras et qui ne sont pas toujours très rentables. Et puis comme d'habitude, plein de bons conseils et d'astuces pour faire des économies au quotidien.
Donc si vous voulez trouver le penchant un peu plus fiable de Google ou de Chrome, eh ben, vous allez feuilleter Bon à savoir et sur bonasavoir.ch. Pierre-Yves Muller, merci.
Merci, bonne journée.
Et tout ça a été retrouvé en podcast sur lfm.ch.